Bienvenue sur Radio Santé.
La Rédac vous présentera des articles, des reportages, des interviews
et bien plus encore.
Retrouvez-nous sur le blog de l'Abbaye aux Dames. Restez à l'écoute sur
Radio Santé.
Bonsoir à toutes et à tous. Vous qui nous écoutez en direct depuis l'Abbaye et bienvenue sur Radio Sainté. Aujourd'hui pour notre émission quotidienne du Festival de Sainte, Éléonore, Nathan et Constance sont autour de la table. Constance, quel est le programme de cette émission ?
Alors pour commencer, nous allons avoir le reportage de Margot sur l'Euro de foot qui a été diffusé sous la voile hier soir. En second lieu, nous aurons le reportage de Nathan et Éléonore sur les codes pendant les concerts de musique classique. Enfin, nous recevrons comme invité Gilles Guénard, qui est chargé de production pour l'orchestre du JOA. Margot, peux-tu nous parler de ton reportage ?
Hier soir, j'étais donc à la diffusion en direct de la finale de l'Euro 2016 de football, le fameux match France-Portugal. J'ai rencontré les supporters réunis au bar, qui m'ont confié leurs pronostics, puis les divers commentaires au cours du match, avant de répondre à ma question. Quel est le rapport entre la musique classique et le football ?
C'est quoi vos pronostics pour ce soir ?
2-0 pour la France.
1, moi je dis 2-1 pour la France quand même.
Oh, 2-0, l'Allemagne on a mis 2-0, le Portugal on prend 2-0 tranquille.
2-1
pour la France. Ou alors 1-0.
Non, 2-1.
Juste 1-0, ouais, 1-0.
5-0 pour la France.
5-0 ?
Éventuellement 5-1, mais au moins 5 buts.
D'accord.
On va tout déchirer.
Ça va être beau.
Ouais.
Elle va perdre.
Pourquoi ?
Parce que la France, elle a... Elle a une psychologie assez faible.
Ouais.
Et quand elle gagne beaucoup de choses, après c'est difficile d'aller jusqu'au bout.
C'est quoi le rapport entre le foot et la musique classique ?
Des artistes partout.
Malgré les apparences, je tiens à le préciser, le foot a quelque chose de très sexuel. Ce qu'il peut y avoir aussi dans la musique, notamment, une symphonie de malheur ou... Parce que, en fait, pendant une heure et demie, il se passe rien. Enfin, il se passe plein de choses, il y a une tension. Et puis, il y a une sorte d'aboutissement qu'on peut comparer à l'orgasme. Quel but ? Voilà. Le point commun entre la musique classique et le foot, c'est pas la longueur. Un match, ça dure une heure et demie. Un concert, ça peut durer une heure et demie.
C'est une vraie tragédie, regarde. Ronaldo blessé au bout de 20 minutes.
On est plusieurs à jouer, comme voilà. Dans la musique classique.
Voilà.
Tout le monde a son rôle, même le gardien de but, c'est comme le petit triangle, et ben voilà,
il y a des heures au bon endroit.
Il faut s'entraîner longtemps pour arriver à un bon niveau, comme les musiciens.
J'ai pas vu Hidalgo, il est où ?
Attention !
Les Allemands sont très forts au foot et en musique classique aussi.
Après, c'est artistique.
Il y a du rythme ?
C'est chorégraphique ?
Ouais, il y a du geste. Il y a du rythme, il y a du souffle.
L'envie de voir gagner ou d'écouter bien les choses.
Dans la messe en ce moment, c'est très instable. Alors après, il se reprend. Mais il y a un moment comme ça où il y a du doute qui s'instaure. Alors, c'est pas de la défaite, il y a du doute qui s'instaure.
Pour ce match, ça se passe comment ?
Ça se passe pas trop mal. Pas trop mal. L'ambiance est particulière parce qu'on n'a pas le son.
On attend, tout va bien. C'est installé.
J'y crois parce que le coaching de Didier Deschamps à la mi-temps va être terrible. Et oui, là, sortir comment on
peut
faire. D'accord. Voilà, ça s'intéresse à la musique portugaise.
Le fado.
Ah, le fado.
C'est pas mal.
C'est pas mal de polyphonie portugaise.
Ouais. Faites quand même humiliante.
Vous avez dit psychologie de merde.
Non, mais normalement je suis bonne en pronostic, mais là l'optimisme m'a perdu.
Merci Margot. À présent, Nathan et Léonore, pouvez-vous nous parler de votre reportage ?
On est allé s'intéresser aux codes de la musique classique parce qu'on a tous vu dans des différents concerts ces différents codes, à savoir les applaudissements, les bis, même la tenue vestimentaire qui est nécessaire pendant ces concerts. Et on s'est donc demandé quels étaient ces codes exactement, si les gens les respectaient ou pas et qu'est-ce qu'ils en pensaient.
Nous avons donc eu beaucoup d'avis différents et c'était vraiment très intéressant. Vous verrez ça dans le reportage qui suit. Les bis, les applaudissements, les codes vestimentaires. La musique classique est remplie de codes et d'éléments incontournables, qui semblent toujours se répéter quand vous allez en concert. Cependant, il faut avouer que nous ne comprenons pas toujours ces codes. Nous avons donc essayé de vous les expliquer en demandant vos avis, mais aussi celui des musiciens.
On commence par les applaudissements. Vous vous êtes tous posé au moins une fois cette question, pourquoi applaudissons-nous ? Écoutons d'abord vos réponses.
Ben c'est une expression de fusion, de coalition, tous ensemble, voilà, d'expression de joie, de vibration répétée.
Moi je pense que c'est un signe de joie qui remonte très longtemps dans le temps, parce qu'on a une petite fille qui a 8 ou 9 mois, la première chose qu'elle a réussi à communiquer c'est les applaudissements.
Je pense que ça a dû exister depuis très longtemps. Hein.
Il semble que les applaudissements soient finalement une tradition historique. Dans l'Antiquité, à la fin d'une pièce, l'acteur principal demandait d'applaudir les comédiens. Une tradition que nous suivons depuis et qui s'est ensuite mise en place dans les concerts. D'un point de vue plus sociologique, pour rassurer ou encourager quelqu'un, les gens le prennent dans leurs bras et lui tapotent le dos. L'applaudissement, c'est un peu la même chose, mais juste à distance. Pour autant, en musique classique, l'applaudissement reste toujours compliqué. Est-ce que vous savez quand applaudir ?
Bah alors ça, c'est très codifié, oui. Il faut attendre la fin complète du morceau, ou en tout cas que le musicien fasse un signe. C'est en France. À l'étranger, c'est pas du tout pareil. On peut, en Italie, on peut lancer des bravi, au milieu. Et voilà, ça dépend des pays, ça dépend des cultures, ça dépend des codes.
J'ai appris sur le tas, quoi.
À cela s'ajoute l'effet de groupe. Il est démontré scientifiquement que la majorité des personnes attendent qu'une personne applaudisse pour applaudir ensuite. Et vous applaudissez avant tout le monde ou vous attendez que quelqu'un applaudisse ?
Et quand je ne sais pas, j'attends de voir ce que font les autres.
Au moins attendre que la note soit complètement finie.
Parce que parfois c'est trop tôt.
Finalement, ce sont peut-être les artistes qui sont les plus concernés par ces applaudissements. Nous avons donc demandé à certains d'entre eux s'il leur était arrivé d'être dérangés par certains applaudissements.
Je m'appelle Alexandra Bricianu, nom d'origine roumaine, et je fais donc de la harpe et je viens au Festival de Sainte avec Clara Isambert pour le duo Manora.
Alors je m'appelle Amaryllis Mathilda Yarchik, je suis violoncelliste.
Est-ce qu'il y a cette histoire des mouvements, est-ce qu'il faut applaudir ou pas pendant les mouvements, est-ce que bon, ça dérange les artistes ou pas? Moi je rêverais que, comme dans les jazz, enfin, dans les concerts de jazz, qu'on applaudisse un solo que quelqu'un aime bien, qu'il y ait des manifestations comme ça.
Le principe de ne pas applaudir entre les mouvements est quelque chose de relativement récent. Ça date du début du XXe siècle, Gustav Mahler, en fait. Il y a peut-être d'autres exemples, mais en tout cas, c'est celui dont on parle le plus souvent. Gustav Mahler qui voulait que ses symphonies soient jouées, considérées comme une œuvre, du début à la fin, malgré le fait qu'il y ait quatre mouvements individuels et tout. Je suis pour le fait d'applaudir entre les mouvements, si ça vous plaît, si le mouvement finit en faisant... Enfin, ça me paraît normal. On manifeste son enthousiasme, on est très content...
Deuxième tradition, le bis, ou le rappel. Cette fois, on doit avouer qu'on a un peu séché sur l'explication historique. Du coup, on est allé vous demander plutôt ce que vous pensez du bis, et surtout ce que les musiciens pensent du rappel et comment ils le préparent.
Je trouve que c'est pas obligatoire, je trouve qu'on demande un peu trop.
Et pour certains types de concerts, je trouve que c'est même dommage de faire des bis.
C'est des petits morceaux, donc on s'attend à avoir un petit morceau en plus. Mais par exemple, quand on va écouter, je sais pas moi, La Passion selon Saint Matthieu, non, on s'attend pas à un bis là-dessus.
On voit en fonction du moment, est-ce que vraiment, ça, c'est le moment ou pas, ça se prépare un peu. Ou alors, quand ça se prépare pas, du coup on refait un morceau qui a plu, qu'on a senti.
Certains solistes très enthousiastes, moi j'ai déjà vu jouer un concerto hyper long et après faire un bis de 10 minutes quoi. Et les fois d'après, le chef a fait « Bon, en fait, tu fais pas de bis. » Parce que là, c'est pas possible.
Vous avez dû le remarquer, entre les répétitions et le concert, les musiciens ne sont pas exactement habillés de la même manière. Petit tour dans leur dressing.
Il y a les robes du soir et les concerts de l'après-midi. Là, c'est plutôt différent. Donc, on évite les robes trop longues qui sont trop apprêtées pour les concerts de journée. Donc, moi, j'ai des robes pas trop longues, mais plutôt courtes, assez déshabillées, parce que c'est plus agréable. Et puis, le soir, des choses un tout petit peu plus classe.
Est-ce que ça vous choquerait si les musiciens étaient habillés de manière plus décontractée ?
Moi, je suis plutôt pour le habillez-vous comme vous vous sentez bien, quoi. Parce que tout le monde nous dira on s'habille en noir, on s'habille en noir. Il y a un moment où on est 5 personnes, on peut mettre des couleurs, enfin, ça va.
Ça ne me dérangerait pas du tout. Déjà, il y a une certaine décontraction dans la tenue du concertiste à Saintes, hein, par rapport à des grands lieux de musique classique.
Je trouve que c'est très bien qu'ils soient habillés comme ça. Ça apporte un peu de certaine solennité, un peu. Oui, je trouve que c'est bien.
Bon, moi, ça ne me dérangerait pas.
Oui. Oui, je trouve que un petit peu de tenue, ça ne fait pas de mal.
Quand on les voit en répétition et qu'ils sont un peu en t-shirt, machin, c'est... on se dit, bon là, c'est pas le vrai, quoi.
Et voilà, on espère qu'on vous a donné suffisamment de réponses pour pouvoir briller en société la prochaine fois que vous irez voir un concert de musique classique.
Merci à tous pour vos réponses. Nous accueillons donc désormais Gilles Guénard, chargé de production pour le JOA, le jeune orchestre de l'abbaye. Bonjour Gilles.
Bonjour.
Alors je vais vous demander de vous présenter ainsi que présenter donc ce qu'est le JOA.
Mmh. Donc JOA c'est l'abréviation de jeune orchestre de l'abbaye. Parce qu'on est à l'abbaye aux Dames et toute l'année on accueille des jeunes musiciens. Et on forme avec eux, et le terme est très fort, c'est que c'est un orchestre qui n'existe pas jusqu'au moment où ils arrivent. Et quand ils arrivent à Saintes, ils se rencontrent, ils font des répétitions, ils font des concerts, et ils forment le jeune orchestre de l'abbaye. Moi, je m'occupe simplement d'eux. Je suis pas le grand ordonnateur de tout ça, mais je suis la personne qui les accueille, qui leur donne des partitions, qui leur envoie des infos par mail, qui les contacte, bien sûr, et qui fait en sorte que tout se passe bien.
Merci.
De quelle façon intervenez-vous dans le choix de la programmation ?
Alors, je ne suis qu'un transmetteur, c'est-à-dire qu'une courroie de transmission entre ces jeunes qui travaillent, ces jeunes musiciens, et ils ont vos âges, hein, enfin un peu plus âgés, ils ont une vingtaine d'années, et toutes les personnes qui sont... eux-mêmes en charge de la programmation. C'est eux qui choisissent les profs qui viennent former les jeunes, c'est eux qui choisissent les œuvres, c'est eux aussi qui ont un regard sur qui recruter. Moi, je ne fais que transmettre des informations. On me donne des noms, par exemple, de violonistes, et ben moi, je vais contacter les violonistes et je vais leur dire « Toi, Clara, toi, Raimi, toi... Charbel, on aimerait bien te solliciter pour faire tel programme. » Mais moi, je ne fais que transmettre. Hein. Ce n'est pas moi qui décide de recruter les musiciens.
Alors, qui s'en occupe ?
Donc, la responsable du JOA, du Jeune Orchestre de l'Abbaye, c'est depuis quelques années Catherine Puig, qui est une musicienne, qui est une altiste, qui dans l'orchestre joue donc la troisième partie, on va dire, de l'orchestre, la partie d'alto. Et c'est une professionnelle et qui a aussi cette casquette de responsable pédagogique pour la formation.
Donc les musiciens du JOA peuvent changer.
Alors c'est ça qui est absolument miraculeux, c'est peut-être un grand mot, mais c'est très, très particulier puisque la dernière session, c'était au mois de juillet, donc il n'y a même pas une semaine. Ils ont travaillé du 3 au 9 juillet, ils arrivent le dimanche 3 pour des répétitions, et ils donnent deux concerts le 8 et le 9 juillet, mais ils ne se connaissent pas pour la plupart. Donc moi, je vais recruter un Américain qui habite à Bâle, en Suisse, et qui fait de la trompette. Il ne connaît pas la personne, Olivier, qui est le jeune trompettiste qui habite en région parisienne, et qui va faire de la musique avec lui. Mais c'est un peu la magie du JOA, parce qu'ils sont tous jeunes et ils ont envie de faire un orchestre, sur une très courte période. Donc ils vont peut-être nouer des contacts après et se retrouver sur d'autres projets. Mais là, à l'abbaye, ils se retrouvent du 3 au 9 juillet et après, ciao, bye bye. Quoi. Ce qui est quand même très particulier parce qu'il y a un challenge qui est monstrueux de se dire est-ce que ça va fonctionner ? Mais donc, globalement, ça fonctionne. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adrénaline parce que c'est très concentré en temps. Et qu'ils ont envie, quoi. Ils sont dans un très beau lieu et ils font de la belle musique. Et donc, c'est un peu magique, quoi.
Merci. Alors, est-ce que c'est compliqué de s'occuper d'un si grand nombre de jeunes musiciens ?
Oui. Ça demande. de la patience, je crois. Là, ils étaient 69. La symphonie fantastique de Hector Berlioz, ça demande par exemple 4 bassons, ça demande 4 trompettes, ça demande 2 harpes, ça demande un instrument qui est l'ancêtre du tuba qui s'appelle l'ophicléide, qui est né au 19e siècle, qu'on ne trouve pas comme ça sous les sabots d'un cheval. Donc ça, c'est délicat, mais c'est la problématique de l'abbaye aux dames, puisqu'on fait, on fait des projets qui sont historiquement informés, c'est-à-dire que c'est des instruments anciens, c'est des cordes en boyau pour les violons, pour se rapprocher, en fait, de, du moins techniquement, de comment ça pouvait sonner au temps d'Hector Berlioz, quoi. Donc le 19e siècle, des problématiques aussi pour les instrumentistes avant qui doivent jouer sur des vieux instruments qu'on loue, qu'on fait venir de loin. Et bon, bah c'est particulier, quoi. Mais ça fait partie, je pense, de la magie aussi de l'ensemble.
Une dernière question. Comment se passe votre expérience à la tête du JOA, justement ?
Alors personnellement, tu veux dire comment je me sens? Il faut y mettre beaucoup d'énergie, alors on va dire patience, pour recruter tout le monde, pour rassembler tout le monde, parce que ça vient pas tout de suite, et puis de l'énergie, parce qu'il y a 69 personnes qui sont 69 individualités, et puis il y a des nations très différentes. Comme ce sont plutôt des spécialistes de la musique ancienne, ils viennent de partout, j'ai des Japonais, j'ai des Sud-Américains... la session de mars, j'avais un Albanais. Donc c'est vraiment multiculturel aussi. Donc il faut mettre toutes ces cultures ensemble. Et ça ne se fait pas sans frottement, bien sûr, mais ça rend la chose intéressante. Mais oui, beaucoup d'énergie. Je pense que j'essaye d'en mettre le maximum. Je suis bien crevé au bout de 7 jours. Mais je suis aussi très très content.
Merci beaucoup Gilles Guénard, chargé de production du jeune orchestre de l'Abbaye, d'avoir répondu à nos questions. C'est bientôt la fin de cette émission sur Radio Sainté. Voici maintenant le programme des prochains événements de ce Festival de Sainte. Tout d'abord ce soir à 19h30, Il Teatro dei Sensi de Francesco Cavalli, interprété par le Capella Mediterranea, dirigé par Leonardo Garcia Alarcón. Puis à 22h, Mozart et Brahms, interprétés par le quatuor Hermès et un pianiste Geoffroy Couteau. Et enfin, demain à 11h, le piano de une à quatre mains, où il sera joué du Verdi, du Schubert, du Charles-Valentin Alcan, du Bernstein. Pour les autres événements, à 11h, au centre-ville de Sainte, un impromptu musical. Et à midi, salle française de Foix, une conférence d'Hélène Dessy-Lartigo sur le concert de Vox Luminis. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Sainté. Et merci à tous ceux qui ont une nouvelle journée accepté de répondre à nos questions. Bonne soirée et à demain pour de nouvelles du festival sur Radio Sainté.
Au revoir.
Bienvenue sur Radio Sainté.
La rédac vous présentera des articles, des reportages, des interviews
et bien plus encore.
Retrouvez-nous sur le blog de l'Abbaye aux Dames. Restez à l'écoute sur
Radio Sainté.